Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce barbecue foot, comme tous les lundis, plus ou moins 21h. Hein, on est un peu comme les clubs français, on n'est pas forcément à l'heure en Coupe d'Europe. Donc, nous, c'est la même chose sur le lundi soir. Nous sommes seulement deux. On a failli avoir une personne qui se faisait appeler Joe l'Incruste, mais qui a été rattrapé par la patrouille juste avant. Donc, vous avez failli y voir Joe l'Incruste, et finalement, bah, comme il porte assez mal son nom, il ne s'est pas incrusté, donc nous serons seulement deux. Mais bon, quels deux? Ça sera donc Arnautovic pour vous servir à la présentation, parce que Christophe Dubarry en a gros sur Bordeaux. Mais et aussi et surtout parce qu'il est en vacances, donc il ne pourra pas être présent ce soir. Je pense que notre ami Clément Fantôme est en train de pleurer toutes les larmes de son corps, parce que d'habitude il a au moins un club rouge pour le sauver, mais cette fois-ci même lui a choke et les voit son grand ennemi partir devant lui. Il n'y aura donc que l'insubmersible Carlos Miser avec moi ce soir. Ça va mon Carlos?
Eh bien, ça va. Bonjour, bonsoir, bon retour de vacances ou bon départ en vacances si vous êtes dans la voiture à nous écouter, hein. Je souhaite aussi un petit bonsoir à Elio qui est sur le chat YouTube aussi, qui lui est aussi en vacances. Tout le monde est en vacances, sauf nous, les anciens, les vieux, les chauves, les résistants. Et on va parler de choses. Qui nous ont encore fait saigner des yeux cette semaine, je crois. Hein, on va être pour ça.
Ah oui, donc le sommaire de l'émission, bien sûr, on va revenir sur les contre-performances. On va dire qu'il y en a deux qui pouvaient être attendues parce que c'était nos représentants en C3 et C4 qui jouaient à l'extérieur dans des matchs compliqués. Donc pour Marseille et Lille, ça se termine sur le même score 2 buts à 1. Donc tout est encore possible à la maison sur le retour pour se qualifier, notamment côté Lillois où ils sont vraiment mal payés sur ce match, et Jason Boutade pourrait nous le dire s'il était là ce soir. Mais en tout cas, il était pas confiant non plus, parce que tu joues contre Aston Villa, mais tout du moins il y a vraiment de la place. Mais la grosse contre-performance finalement et pour Paris à domicile contre Barcelone, mais on va revenir dessus et on va se projeter aussi sur le match qui arrive dès demain. Donc finalement, on n'a pas trop de temps à cogiter côté parisien, c'est pas plus mal. Et bien sûr, on fera notre point J29, enfin J29 partiel pour notre cher Ligue 1, car trois matchs étaient reportés pour cause justement de Coupe d'Europe, et pour finalement que nos clubs se préparent le mieux possible, parce qu'on a vu que leurs adversaires ont joué ce week-end. D'ailleurs, est-ce qu'on parle du fait qu'ils faussent leur championnat parce qu'ils mettent une équipe remaniée pour jouer ces compétitions, ou alors il n'y a que chez nous que ça fait débat? Après, peut-être que ça sera ma mère, ma chipo. Si on parle rapidement de la victoire historique du Bayer Leverkusen en Bundesliga, qui est d'ores et déjà champion après sa victoire de ce week-end. Premier titre pour le Bayer de toute son existence. Donc c'est d'autant
Bayer,
plus
hein, la
énorme.
Bayern, c'est eux, ils ont eu leurs quatre doses de vaccin,
Ça.
hein, faut pas oublier. Ils sont connectés à la 4G de partout. Et
D'ailleurs,
d'ailleurs, s'ils ont trois jambes, c'est normal. C'est pas des contre-coups du vaccin. Faut pas se dire ça.
c'est ça. D'ailleurs, le Bayer, son nom, c'est le Bayer Nullfir. Donc, 4 Nullfir, 4 doses. Voilà. S'il fallait d'autres preuves comme quoi tout ça était largement écrit, c'est un complot mondial. Maintenant, voilà, Big Pharma a gagné. Donc, on va revenir à des choses beaucoup plus sérieuses. Est-ce que le foot est sérieux? En tout cas, on essaye de ne pas se prendre au sérieux du côté de barbecue, du barbecue foot et du barbecue en général. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous vendredi pour notre preview des playoffs NBA avec qui sera là avec avec Richard qui sera à la présentation. D'ailleurs, Richard, je crois que je t'ai déjà vu dans ce barbecue foot.
Donc, pas sûr, donc, mais je sais.
Ouais. c'est un doigt.
On va essayer de voir ça.
C'est ça. Allez, on est parti sur ce débrief de Coupe d'Europe. Et on va commencer par Marseille et par Lille. Les Marseillais qui étaient finalement assez mal embarqués et ce petit but de Bameyang à la fin du match qui redonne de l'espoir. D'ailleurs, c'était le titre de l'équipe le lendemain. Il reste de l'espoir sur cet OM qui tombe sur un Benfica qui est pas monstrueux hein, depuis le début de la saison. Di Maria qui se rappelle au bon souvenir des Marseillais en inscrivant le deuxième but, mais en tout cas c'est pas oufissime. D'ailleurs le Sporting est bien parti pour remporter la Liga Noche, donc et avec un Porto qui est aussi troisième et forcément et même pas assuré d'ailleurs je crois qu'il y a même pas de la troisième place. Non, sur les tours préliminaires sur la prochaine Ligue des Champions.
Donc voilà, qui est passé devant. Donc ouais. Mais effectivement, Benfica m'a mis déçu. Moi déjà, je trouvais que le tour de barrage face à Toulouse était déjà. Enfin, Toulouse avait manqué le coche par un peu ce manque de vice, un peu comme on pourrait dire, ce manque d'expérience des grands matchs. Mais c'était quand même plutôt positif pour Toulouse. Benfica a joué son huitième face au Rangers, qui est un grand club mythique d'Europe, mais qui n'est pas non plus une équipe extraordinaire. Ils sont passés un peu par un petit trou de souris. Et c'est vrai que Marseille, ce qu'il y a, c'est que certains disent qu'il y a 5 défaites d'affilée, donc je suis bien d'accord avec ça. On avait dit de toute façon que il y avait eu un peu l'électrochoc Jean-Louis Gasset, le remaniement un peu tactique qui était plutôt intéressant. Mais on s'aperçoit aussi de la limite un peu de ces joueurs. Alors, ils sont pas morts après le match aller. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir éditer une sorte de surprise? C'est que c'est un match quand même qui est plutôt équilibré, mais c'est pas le meilleur des quarts de finale de cette Europa League, quoi.
Non, et surtout, on se disait en plus, allez, si Marseille passe Benfica, il tombe contre l'ogre Liverpool, parce qu'on donnait pas cher de leur peau.
Non.
Ouais, et en fait, la surprise et peut-être la surprise de ces quarts de finale est venue justement de Anfield, où Liverpool s'est fait massacrer littéralement par l'Atalanta. L'Atalanta qui gagne 3-0, mais ils peuvent leur en passer 6 ou 7 s'ils sont un petit peu plus forts devant le but, avec des trucs vraiment incroyables. Même devant, ça n'a pas été oufissime non plus. Ce qui s'est peut-être confirmé aussi, ce mauvais pas de Liverpool avec sa défaite contre Crystal Palace.
Après Liverpool, il y a quand même des absents. Il y a quand même Alisson qui n'est pas là. Keller, j'entends que ce soit le goal remplaçant, mais il est jeune, il est peut-être plein de bonne volonté. Enfin, jeune, il a 25 ans quand même déjà.
Mais, pour un gardien, ce qui est pas vieux.
C'est pas très vieux. Mais je trouve que effectivement là ça manque quand même pas mal. Et on les a vus pas baisser les bras, mais ça va être compliqué au match retour. Et puis après, de toute façon, dans cette Europa League, il y a quand même, t'en as parlé un petit peu en présentation, il y a un ogre, alors qui est lui situé de l'autre côté au niveau du tableau, qui est le Bayer Nulfir Leverkusen, et qui a réussi encore, qui est toujours invaincu cette année, cette saison. aussi bien en Coupe d'Europe qu'en Coupe d'Allemagne qu'en championnat, qui ont battu West Ham chez... Alors, c'est au Bayern, donc ils ont battu le West Ham 2-0. C'était quand même aussi un match, un sacré match, et West Ham a quasiment pas existé. Même si le match s'est décanté en fin de match, enfin si le score s'est décanté en fin de match, mais le Bayern a montré une vraie supériorité au niveau de West Ham. Et moi, je pense que c'est un peu l'équipe, ça va être l'équipe monstrueuse de cette année, et ce qu'est en train de faire Xabi Alonso. Moi, ça m'impressionne encore plus que la saison où Guardiola avait remporté tous les trophées avec avec Barcelone, parce que la saison où Guardiola fait ça, Barcelone a quand même un effectif hallucinant. Enfin, c'est quand on voit l'effectif qu'ils ont en ce moment-là, c'est la meilleure équipe du monde. Le Bayern, alors je veux bien que ça soit le championnat d'Allemagne, disent oui, mais certains, il faut quand même se dire que le Bayern avait jamais remporté un titre avant. C'était toujours un peu les losers magnifiques. On se souvient du but de Zidane en finale de Coupe d'Europe, c'était face à eux avec l'équipe de Balak. Ils avaient jamais remporté un grand titre national au niveau du club, donc là on va dire ils ont inauguré, et là cette saison ça peut être un triplé fabuleux pour eux. Et puis Xabi Alonso où tu sens qu'en plus il va prendre le temps, quoi, il va encore rester la saison prochaine. Je pense qu'il sait qu'il va peut-être pas pouvoir faire aussi bien, mais il va installer, on va dire, une certaine philosophie, et qui va un peu développer peut-être sur encore 2-3 saisons avant de pouvoir aller sur un club un peu plus important avec plus de moyens, et voir comment il peut gérer aussi des autres égos, quoi. C'est ce que je veux dire. Joueurs un peu plus importants.
En plus, là, déjà, il entérine quand même le titre. Tu pourrais dire il y aurait que ça, et encore que. C'est pas, en plus ils finissent pas champions avec 2-3 points d'avance. C'est que là ils ont 16 points d'avance sur le Bayern Munich, donc 74 buts marqués, 19 encaissés seulement. Je pense que ça peut être, c'est aussi ça explique que c'est leur bon parcours, parce que c'est peut-être la meilleure défense des 5 grands championnats. Ils ont encaissé le moins de buts. Certes, en plus, tu joues moins de matchs, mais là, ils sont à 29 matchs. Quasiment toutes les ligues sont à peu près à ce niveau-là. Donc, ça signifie quand même quelque chose. Mais surtout, avec ça, c'est que si tu vas loin, en plus, en Coupe d'Europe, si tu gagnes la Coupe d'Allemagne, qui, on va dire, reste accessoire, mais voilà, et on va dire qu'elle est quasiment gagnée, hein, parce que je sais plus, je crois que c'est
vraiment... Oui, c'est face à Kaiserslautern, qui est 16e, en plus de 2e division, qui lutte pour pas descendre en 3e, donc...
Voilà, donc on va dire qu'elle est quasiment gagnée, même si tu mets l'équipe bis contre Kaiserslautern. C'est pas leur faire injure.
Non.
Que c'est gagné. Donc ils ont déjà 2 titres. Ils peuvent aller en accrocher un 3e avec la Ligue Europa. Ça donne aussi envie de rester potentiellement aux joueurs. Parce qu'on disait tout de suite l'étape Soda,
les Boniface,
Florian Wirtz, etc. Tu te dis, c'est des mecs qui sont promis à justement aller acheter, à être achetés par le Bayern. Il vient faire ses courses toujours dans les équipes qui performent assez bien la saison d'avant. Là, je suis pas forcément convaincu que tu es un exode. À commencer par l'entraîneur. Parce que si même l'entraîneur, au bout d'une bonne saison, se barre, c'est sûr que les autres, ça ne donne pas aux joueurs l'envie d'aimer, comme dirait l'autre, mais au tout du moins l'envie de rester, quoi. Donc, bon, on a divergé. On a fait le point que je voulais faire à la fin. On l'a fait tout de suite sur le Bayern. Mais en tout cas, un grand chapeau à eux. Et il leur reste encore, finalement, ils peuvent se concentrer sur la Ligue Europa pour finir la saison. Donc, en fait, et aussi essayer de rester invaincu, parce que c'est toujours pas mal. Il leur reste 5 matchs. J'ai pas forcément vu leur calendrier sur la fin de saison. Hop, je regarde vite fait sur les matchs, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste, ah, il leur reste Dortmund dimanche prochain. Ils ont Stuttgart, qui est quand même le troisième surprenant de cette Bundesliga aussi. Frankfurt, Bochum, Augsburg et Kaiserslautern pour finir le même week-end que la Ligue 1 pour la finale de coupe. Ouais.
Il peut faire des matchs nuls hein, face à Dortmund et Stuttgart, hein, c'est pas, et Francfort. Hein.
Ouais. Donc voilà. En tout cas, on leur souhaite comme dirait l'autre. On passe vite fait à Lille. Lille qui finalement fait un gros match. Qui est un petit pêche comme d'habitude sur la finition parce qu'il se procure. Je crois que j'avais vu sur FootMob 3 big chances, donc c'est qu'on appelle finalement les grosses occasions où tu es en position de marquer, tu n'as personne devant toi, tu es dans une position, on va dire, très favorable. Je crois finalement qu'ils en convertissent une seule. Donc on a vu que c'était quand même important en Coupe d'Europe de mettre les occasions qu'on avait. Sur un Aston Villa, il doit aussi gérer la fin de saison en Premier League parce qu'ils sont toujours top 4.
Ils sont quatrième. Ils sont quatrième.
Donc voilà, pour gérer.
Mais après, c'est vrai que Lille a été la bonne surprise. Aston Villa, c'était quand même aussi plutôt un joli match. Hein. Je veux dire, faut pas. C'est deux belles équipes. C'est vrai que le match retour va être à voir parce que les deux sont aussi dans une sorte de la fin de saison à suspense pour les qualifications européennes pour les deux. Et je pense que ça peut donner vraiment en plus un joli match. On voit que Fonseca, il va vraiment avec son équipe type, ce qui est plutôt plaisant quand on compare les saisons précédentes où il fallait pas jouer les Coupes d'Europe pour les clubs français. Donc même si je suis pas un grand fan de Lille, j'espère qu'ils vont pouvoir accrocher cette place en demi-finale. Et c'est vrai qu'en plus ils arrivent à accrocher cette place en demi-finale, ils se retrouveraient avec le vainqueur du match, enfin de la confrontation Olympiakos-Fenerbahçe. Normalement, ça devrait quand même pouvoir passer.
C'est en plus limite Lille s'y débarrasse la Conference League d'Aston Villa. Il resterait que la FIO en équipe un petit peu.
Sachant que la FIO a fait 0-0 face à Pilsen. Hein. Alors c'était à Pilsen au match aller. Mais c'est pareil, c'est pas non plus un résultat extraordinaire de la FIO. Hein. Donc,
c'est ça. Donc là, j'ai repris les stats. Finalement, c'est 4 big chances. Et donc ils en manquent 3. Alors qu'Aston Villa n'a qu'une seule big chance et ils la mettent au fond. Donc sur le match, c'est 59-41 en possession de balle, quasiment 1-5 d'XG contre 1 pour Aston Villa, 7 tirs cadrés sur les 11 tentés par les Lillois. Oui, c'est si tu regardes les stats brutes, même sur les momentum, sur le déroulé du match, tu vois qu'ils ont eu le pied sur le ballon. Malheureusement pour eux, on va dire, à chaque fois que Aston Villa a eu des temps forts, ils les ont convertis quoi. Donc et c'est le souci les lois qu'on pointe du bout de doigt pendant toute la saison. C'est une équipe si elle convertissait vraiment toutes les occasions, enfin pas toutes, parce que si tu convertis toutes les occasions, tu gagnes la Ligue des Champions et tu gagnes le championnat sans aucune défaite, mais en tout cas ils seraient à un niveau supérieur, il serait top 2 du championnat, je pense, assez facilement. Oui. Et il serait resté aussi. Il serait resté, non, puisqu'ils étaient déjà en conférence league. En tout du moins, voilà, ils pourraient gagner. Moi, depuis le début de leur conférence league, je les vois aller au bout. Ils ne sont pas en train de me donner tort. Et en tout cas, je leur souhaite vraiment que cette équipe décroche quelque chose parce que elle a quelque chose. J'espère juste que Fonseca va pouvoir continuer la saison prochaine parce qu'il y a Marseille qui le drague apparemment de manière assez forte.
Après, le problème de Lille, c'est il faut pas se cacher, il faut pas se voiler la face. Et moi, je le dirais, même si notre cher Eden, c'est Eden Bizarre.
Non, c'est Jason Boutade.
C'est Jason Boutade. C'est qu'en fait, c'est savoir en fait la politique de Lille sur comment dirais-je. Sur la saison prochaine, à savoir s'ils vont garder tous leurs joueurs. Et c'est toujours un souci, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en fait sur des ventes de joueurs ou comment te dire. À un moment donné, en fait, c'est t'arrives pas à construire sur Zegrova. S'il y a une énorme offre qui arrive, il va partir.
Bien sûr. Et comme,
mais comme beaucoup de clubs, hein.
Voilà, tu vois, on l'a souvent
mais je pense
dit,
que
sur Lille,
en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec le passage de notre cher ami, oh merde, j'ai perdu son nom,
Gérard Lopez,
je pense que les finances étaient vraiment pas très très bonnes au niveau de Lille et que bah il y a des fois tu es un peu obligé de vendre pour remettre un peu du beurre dans les épinards quoi. Donc c'est toujours ça le problème.
Ah bah en France t'es même obligé hein. C'est-à-dire que la ligue publie les comptes des clubs quelques mois après la fin de la saison, tu vois qu'il y a toujours du déficit structurel dans tous les clubs et que la seule façon de le combler c'est de vendre des joueurs. C'est les indemnités de mutation, comme on appelle ça dans le jargon. Et finalement, sur le championnat de France, il n'y a que Paris. On appelle aussi le prison FC, c'est pas pour rien. Le prison Saint-Germain, parce que tu es en capacité de garder les joueurs, même si ils veulent partir ou s'il y a un grand club qui vient taper à la porte. On l'a vu avec Mbappé. Il y a des années avant avec Marco Verratti
regarde avec machin avec Ben Arfa où quelque part ton joueur te servait pas oui. Mais parce que je sais pas ce qu'il avait fait au niveau de l'émir, on avait dit non mais de toute façon il jouera plus et le mec il a pas oui. Alors qu'il avait un des plus gros salaires de Ligue 1 hein, tu te dis hein,
quand même. Non quand même pas non c'est-à-dire qu'il a toujours eu c'est vrai qu'il arrive au moment où Zlatan est parti, Neymar et Mbappé n'ont pas encore signé. Donc c'est le fameux.
Il avait quand même un énorme salaire, mais tu te dis le foot au frigo.
Ah oui, comparé à la moyenne de Ligue 1, oui.
Donc voilà. Donc on va espérer que Lille puisse passer ce tour-là.
Oui. En tout cas, il faudra qu'ils mettent la même intensité avec un tout petit peu plus de réussite. Pour convertir toutes ces occasions et pouvoir accéder parce que au moins gagner 1-0. Alors, pour les clubs français, ça va me faire une transition parfaite vers Paris. Ces deux matchs, ces deux défaites finalement 2-1, c'est quasiment l'une des meilleures situations avant quand il y avait le but à l'extérieur. Parce que tu gagnais 1-0 chez toi avec le but qui compte double à l'extérieur, bah, finalement tu étais qualifié. Donc ça aurait pu finalement être pas mal. Là, ça t'emmènera juste en prolongation. Ouais. Des prolongations que tu peux faire à domicile. Donc finalement, tu peux passer un peu plus de temps chez toi.
Tu me dis que je parie à jouer un match de Ligue des Champions de Coupe d'Europe, mais tu l'as vu de tes yeux moi, je sais pas. Hein, je me rappelle pas cérébralement.
On va pouvoir rentrer dans le dur. D'ailleurs, je remercie encore. Mes confrères et amis du barbecue F1, comme bien souvent le mardi ou le mercredi, parce que là en plus exceptionnellement on était le mercredi, ont pu faire de l'assistance psychologique. Hein. Donc si vous écoutez le barbecue F1, vous pourrez entendre deux fois où je suis bien et les autres fois où le mutisme m'a accompagné sur la fin de match. Non, bah après c'est. D'ailleurs, avant que j'attaque dans le dur, bah je voudrais ton ressenti sur le match. Bon, il a fallu que je le revoie un petit peu et je
le vrai problème. le vrai problème, parce que on va pas parler des pseudo-journalistes qui se la frottent en parlant de Henrique. Pour moi, Henrique, son erreur principale, elle vient pas du match contre le Barça. Alors, tu connais mon mantra, faire jouer les joueurs à leur poste. Et le fait d'avoir mis Mukiele contre Clermont, c'est ton seul arrière-droit. Tu sais qu'Hakimi
Mais de toute façon, il pouvait pas
est
jouer Mukiele.
suspendu. Et, hein?
Il pouvait pas jouer Mukiele, il était en protocole commotion. Il
Non,
était
mais justement, non, mais c'est ce que je te dis, c'est-à-dire que tu sais qu'Hakimi, il va pas jouer ton quart de finale aller. Donc, mets Hakimi, Mukiele, tu le mets au pire sur ta dernière demi-heure pour lui redonner un peu de forme, de quelque part une sorte un peu de le faire recourir et tout ça. Et comme ça, au moins sur ton match aller, tu peux mettre un spécialiste au poste et pas te retrouver avec Marquinhos parce que le problème du deuxième but. Qu'est-ce qu'essaie de faire Donnarumma de façon complètement hallucinante? Il essaie de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de mettre une balle un peu à mi-hauteur sur l'arrière-droit, sauf que l'arrière-droit, c'est Marquinhos, et que Marquinhos, il n'a jamais eu l'habitude de se projeter, et qu'en fait, au lieu d'arriver sur Marquinhos, elle arrive en plein sur un Barcelonais. C'est des schémas de jeu, en fait, qui est pas... Enfin bon, alors après, avec son jeu au pied aussi, je sais pas où il a voulu la mettre, mais moi, je pense que c'est ça qu'il veut faire, et que le problème, c'est que tu vois, il n'y a pas d'automatisme, tu vois. Donc, moi, c'est le premier entre guillemets défaut de Enrique. Et le deuxième, moi, j'aurais mis Ramos. J'aurais pas mis Asensio. J'aurais vraiment mis quelqu'un qui puisse embêter, pour pas dire plus, cette charnière centrale, parce qu'on s'aperçoit que même ne serait-ce que mettre. Ou alors, si tu mets pas Ramos, tu mets Mbappé au centre et tu mets Barcola sur un côté, parce que je trouve que du moment où il y a eu un changement tactique là-dessus, la défense centrale de Barcelone a vraiment pris l'eau, ils s'en feraient vraiment traverser et en fait ils ont vraiment paniqué. Alors que Asensio était trop reculé, il a voulu faire un peu
un
cette
fois neuf
faux numéro
l'année
10.
prochaine.
Ouais, mais c'est faux numéro 10, faux numéro 9. En fait, t'as un faux joueur que tu sais pas en fait où il joue. Et du coup, bah,
Bien résumé, un faux joueur
tu perds en fait,
sur le
parce
match.
que si t'as un 9, tu peux avoir une sorte de point de fixation et faire partir tes ailes et les faire entrer intérieur. Ou alors, si tu mets quelqu'un comme Mbappé, tu vas profiter de sa profondeur véritablement au niveau de la pointe entre tes deux centraux et tu vas faire alimenter les balles par tes côtés, ce qui est complètement. Ou alors, si tu mets vraiment un 10, tu mets Dembélé, tu le mets plus bas, quelqu'un qui va peut-être gêner plus la relance barcelonaise, qui peut aussi être, tu vois, un choix tactique. Mais là, en fait, Asensio, il est le cul entre deux chaises, tu vois. Il fait ni ça, ni pas ça, donc en fait, mais il fait rien du tout, parce qu'en plus, tu le vois complètement paumé, tu vois. Donc là, c'est vraiment pour moi entre guillemets, le reproche principal que je pourrais faire à Enrique, mais le gros problème de ce match-là, en fait, il y a deux joueurs. Il y en a un que tu vois pas, Kiki, et il y en a un que tu vois trop, c'est Donnarumma. Donnarumma, il coûte deux buts. La
Alors
relance.
le premier
Non,
s'il
non, le deuxième et le troisième. Le deuxième et le troisième, la relance au pied catastrophique, et le
Ouais, mais
troisième,
à
je
la
suis
limite,
désolé.
la relance, c'est pas trop grave. C'est derrière le fait que t'es un mec qui rentre et qu'il est de la qualité de Pedri, qui lui laisse tout le loisir, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui le cadre pour lancer sur arbitre Rafinha, qui avait jamais mis un but en phase finale de Ligue des Champions, et le mec il fait un doublé, il peut même en mettre quatre hein, mardi soir, enfin mercredi plutôt.
Et du coup, le
Mais
deuxième,
par contre le troisième, oui. Voilà, oui. Pas de
le
problème.
troisième, mais c'est pas possible. Il fait combien? Il fait 1,95 m,
Il
il
fait
fait
deux
deux
mètres.
mètres. 2 mètres et tu sors pas sur un corner.
Bah, tu sors pas sur un
Sachant
corner. Tu
que
peux.
si un mec te touche,
Mais
ta faute pour toi.
ouais, c'est ça. C'est que quand tu es dans que le, il est à peu près, oh, c'est à peu près à 2 mètres 15. Il est peut-être à 2 mètres, même pas 2 mètres 20, parce que Christiansen au fond de la
Avec
surface.
les bras, oui.
Donc
Ouais.
oui, tu peux tranquillement. Et surtout, c'est t'es à 3 mètres du but. Mais on a l'impression que mais
Ah, mais il a
ça,
peur, hein.
je crois qu'il y a un joueur qui en a parlé après le match. Et il y avait une volonté sur les premiers corners de faire des blocs et de gêner Donnarumma pour le mettre dans l'inconfort et le pousser sur sa ligne. C'est quelque chose qui a été travaillé par les Barcelonais. Donc, on l'a très bien vu en première mi-temps, où notamment le ballon de la tête de Lewandowski, il est sauvé sur la ligne par Nuno Mendes.
Et là, tu vois, il a de la chance, parce qu'il touche Lewandowski, c'est pénalty, carton rouge. Parce qu'il le touche au niveau de la tête quand même. Il aligne au niveau de la tête. Après, ça dépend au niveau de l'interprétation. De toute façon, maintenant, l'interprétation, tu as tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux faire les pires fautes. Il y a des fois, tu n'as pas pénalty, puis il y a des fois, tu vas juste toucher le joueur. Voilà. Mais déjà, cette sortie-là est hallucinante. Mais je me dis, un gardien comme Donnarumma, c'est pas possible.
Et surtout là où Christiansen le reprend, il est au milieu, à 3 mètres du but. Donc là-dessus, il doit s'imposer. C'est-à-dire que il fait 2 mètres 95 kilos. Enfin, normalement, c'est le mec, s'il est à côté de toi, il te fait de l'ombre. Donc surtout nous, vu qu'on est on est des masses assez imposantes tous les deux.
Je comprends pas, mais c'est un vrai poids pour Paris, parce que tu pars avec une défense où tu as ton gardien qui est pas sûr sur les sorties aériennes. C'est un vrai problème.
Il est sur sa ligne. Dans ce cas-là, oui. Mais voilà, sur les sorties aériennes ou même les sorties. Il fait une sortie au pied très très bonne en première mi-temps. C'est quand même le Donnarumma qui est arrivé à Paris, il la faisait pas celle-là. Donc il a quand même progressé, mais c'est vrai que c'est sorti le jeu aérien de Donnarumma, c'est vraiment son gros point faible. Donc c'est sûr que le troisième est pour lui. Le premier, j'ai vu qu'on lui reprochait aussi quelque chose. Le premier, s'il le touche pas, Lewandowski la reprend en première intention du droit et y a but quoi. Ou alors il fait un sauvetage de malade.
Le problème, c'est pareil. Alors, il y a certains qui disent oui, mais Enrique, alors, avec moi, c'est ce que j'ai expliqué pour Mukiele, parce que si tu as Mukiele qui peut partir, tu peux faire une défense, Mukiele, Marquinhos. Après, tu peux mettre soit Berardo, mais plutôt moi j'aurais mis Hernandez et Nuno Mendes. Mais avec ce qui est arrivé, forcément tu mets Beraldo axe gauche et Beraldo, c'est pareil, il faut se rappeler où il est il y a six mois, il est au Brésil, a joué le championnat de première division brésilien. Alors j'ai beaucoup de respect pour le championnat de première division brésilienne, mais c'est pas la Ligue des Champions. Et le garçon, il a 20 ans. Et effectivement, se laisser aspirer par Lewandowski qui joue très bien le coup. Il explique bien. C'est-à-dire qu'en fait, tu sens qu'il l'a pas, que l'autre, en fait, il monte sur lui pour essayer de qu'il pouvait aller le chercher. Sauf que Lewandowski, c'est pas le dernier des crétins. Il a réussi à faire l'action qu'il voulait faire et voilà. Ce que je reproche, c'est pareil, c'est la volonté des joueurs. Quand tu vois que en un quart d'heure il renverse Barcelone, et pour moi le tournant du match, on n'a pas souligné, c'est aussi Fabian Ruiz qui bouffe la feuille, parce que sur sa frappe contrée, s'il la glisse à Dembélé, alors qu'il y a 2-1.
Paris a trois actions. T'as Barcola qui la met sur la barre, Dembélé met sur le poteau, et il y a un face-à-face de Barcola où là, il fait sa jeunesse. Parce que c'est vrai que là, j'ai entendu à juste raison à faire la comparaison. Sur une action comme ça, on a vu quelques-unes il y a quelques années, où tu avais un Di Maria qui arrivait en 1 contre 1. Là, ce ballon-là, il mettait le petit piqué au-dessus de Ter Stegen et il en a fait quelques-unes des comme ça.
Le coup le plus marquant, c'est vraiment Fabian Ruiz qui vient pour essayer de décocher une frappe alors qu'il a Dembélé tout seul à gauche, et sachant c'est le deuxième but qu'il met Dembélé. Non, c'est le premier. C'est l'égalisation. Et tu te dis encore, il est sur la possibilité de sa chiche. File lui, et à 3-1, c'est plus le même match, le 3-1,
Ah non?
Barcelone. Ils sont la tête dans le seau, et c'est finito, quoi. Le match aller, vous le finissez comme la
Alors,
Sociedad.
tu peux le finir à 3-2, 4-2, 4-3, mais pour Paris, hein, c'est. Et alors après, c'est là où, quand on parlera tout à l'heure d'un peu nos projections pour le match de demain soir, bah, de toute façon, ça va arriver assez vite, c'est que finalement, c'est un mauvais pari qui peut taper largement Barcelone dans un meilleur soir,
Mais moi,
où tu es à la ramasse défensivement, où ton milieu de terrain est également à la ramasse, où une fois que tu as passé les 20 premières minutes, tu te retrouves avec des écarts entre les lignes qui sont monstrueuses. Alors, sachant que tu as quand même le milieu de terrain de Barcelone, il est quand même pas dégueulasse. Donc, c'est vrai que énormément de lacunes côté Paris. On n'a pas encore parlé du Casper qui évolue sur l'aile gauche, qui, d'après certains, il n'est pas mis dans les bonnes conditions, etc., etc. D'ailleurs, on profite pour faire un coucou à OJCRM, qui est là dans le chat et qui nous disait justement, qui était un peu d'accord avec toi sur le fait que Luis Enrique a fait un peu comme Blanc, a expérimenté. Moi, je trouve qu'il n'a pas expérimenté, justement. Et c'est vrai que je l'ai entendu et je suis assez d'accord sur la feuille de match qui débute la rencontre. Donc, le 11 parisien, tu as énormément de joueurs espagnols ou à connotation espagnole. Donc, je pense qu'il a essayé de faire du Barcelone de l'époque, c'est-à-dire une équipe qui avait la possession, a essayé d'avoir de la technicité. Donc, c'est pour ça que tu mets Lee, c'est pour ça que tu mets Asensio. Pour le coup, c'était assez attendu de mettre Marquinhos arrière droit et de laisser finalement un peu plus monter Nuno Mendes pour toujours avoir cette asymétrie. Pour le coup, Mukiele, il est quand même à la cave. Ça mettait au moins de la vitesse à l'arrière droit, mais sur le premier but, enfin, Marquinhos, il est scandaleux, quoi. Le mec, il revient en trottinant sur une contre-attaque barcelonaise. Et finalement, avec l'intervention de Donnarumma, le ballon arrive dans les pieds de Rafinha. Et Rafinha, finalement, a tout le temps d'ajuster derrière. Et t'as Marquinhos qui revenait tranquillement sur lui, quoi. Enfin, et finalement, c'est un peu ça tout le match, ce manque d'agressivité. Alors, on va dire que le foot n'est pas forcément
Non, mais il faut de la
un
bonne
sport de marathonien.
agressivité.
Mais Barcelone,
Cours 7 km de
court
plus.
117 km contre 110 pour Paris. Et encore 110 pour Paris, c'est 5 km de plus que l'année dernière. L'année dernière, on était avant-dernier sur ceux qui couraient. Bah, ça veut
Non,
dire
mais
que t'en avais deux qui couraient pas, donc forcément.
après, je vois OJCRM qui dit effectivement mettre Zaïre Emery en tant qu'arrière droit et Danilo à la place de Beraldo. Alors, Danilo, je ne sais pas s'il était blessé ou pas. Non, il n'avait pas un souci
Non, mais
d'obligation.
il avait déjà fait, il a reproduit ce qu'il avait fait en
Oui.
mettant
Mais
les deux gauchers en défense centrale.
oui.
Sauf qu'il y a un mec qui a fait un match de Ligue des Champions, mais une masterclass, sans mettre un but, comme quoi on peut faire un énorme match en Ligue des Champions pour le collectif sans devoir chercher les stats à tout prix. Coucou Kylian, c'est Lewandowski. Il a pesé sur Beraldo et sur Lucas Hernandez. Sur 6 duels, la défense parisienne n'en a gagné qu'un seul. C'est des stats qui sont monstrueuses. Et comme on l'a dit, et Paris, finalement, perd le match 3-2 seulement. Alors que finalement, l'équipe
Mais moi,
est quasiment en dessous tout, à part Nuno Mendes et Vitinha. Et quand tu vois que ton meilleur homme côté Paris, c'est encore Vitinha, c'est que les autres n'ont vraiment pas été bons. Hein.
je trouve, moi, que, et on n'en a pas beaucoup parlé, enfin, je trouve, mais, enfin, tout le monde s'est rué sur Luis Enrique, mais je trouve que Barcelone, c'est pas extraordinaire non plus, quoi.
Non, et ça reste très bon. Ils
Oui,
ont,
c'est.
on a dit, ouais, bah, côté Paris, c'est vrai que Beraldo, il est jeune, il a 20 ans. De l'autre côté, il y a un mec, il a 11 matchs pro, il s'appelle Cubarsí, et il était meilleur que toute la défense parisienne. déjà.
Après tu vois,
tu vois, il y a un petit Yamal qui est la mini Yamal qui est quand même pas vieux non plus.
Arnaud, tu sais, on en avait déjà parlé ici, tu sais ma réticence à mettre des joueurs maintenant aussi jeunes que ça. Il y a des fois, j'avais aussi entendu parler de Zaïre Emery, pas titulaire, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il a? Alors, je voudrais juste rappeler des choses, alors pour les gens qui nous écoutent. Zaïre Emery, il a 18 ans.
Oui.
Et en fait, alors je sais pas si les gens, je vais dire des choses qui sont qui peuvent être choquantes. Attention, hein, préparez-vous. En fait, quand entre le stade de l'enfance et de l'adulte, on a ce qu'on appelle l'adolescence. Et Zaïre Emery, il finit son adolescence. Il peut même avoir ce qu'on appelle des poussées de croissance. Alors pour un footballeur, c'est peut-être exceptionnel, mais simplement, ça arrive à tout le monde. C'est-à-dire que le corps grandit, change. Hein, ton corps change. Les plus vieux d'entre vous comprendront la référence. Mais en gros, physiologiquement, on voit que, par exemple, Zaïre Emery, en une saison, il a déjà muté morphologiquement. Moi, je trouve
que c'était déjà un beau bestiau.
C'était un bestiau, mais je trouve qu'il a quand même encore évolué. Et peut-être qu'il évoluera encore. Pourquoi est-ce qu'on dit que les adolescents dorment beaucoup? Parce que leur corps, quand ils grandissent, ça prend beaucoup d'énergie. Et que peut-être que Zaïre Emery, il est aussi dans cette phase-là. Et qu'il faut pas le brûler, faut pas faut le préserver quelque part. Donc, la gestion, effectivement, là-dessus, on peut reconnaître, Luis Enrique, il essaie d'impliquer vraiment tous les joueurs. Mais, peut-être que ça va leur faire du bien, le fait de pas avoir joué ce week-end. À part pour Donnarumma, parce qu'il va falloir vraiment qu'il aille voir. J'espère qu'il a 28 tous les jours. Hein.
Ça peut jouer un rôle important si on va à une séance de tir au but. Quoi.
Exactement.
Mais sur cet avantage-là, au moins sur les pénaltys dans le cours du jeu, pas sur les séances de tir au but, c'est largement à la faveur du portier parisien, parce que côté Ter Stegen. Il réussit à avoir un pourcentage d'arrêt en pénalty inférieur à celui du Golloris. Donc, c'est pour dire qu'il est quand même pas très, très fort. Il est à 17% d'arrêt sur en championnat.
Alors, je répondrai juste un petit coup à OJCRM parce qu'il nous dit qu'il n'y a qu'en France qu'on tique sur l'âge. Rooney a joué à 16 ans. Messi a joué tôt aussi. Alors, Messi, il faut quand même se rappeler que quand Messi perce, il joue. Effectivement, il commence à jouer, mais il joue pas aussi tôt que ça à Barcelone. Non. En plus, lui, il avait eu un problème de croissance. Il avait été sous hormones de croissance et le traitement avait duré longtemps. Et on a l'impression qu'il a, mais Barcelone l'a longtemps protégé. Mais si il a été.
Ils le sortent parce qu'il y a plus de joueurs, ils ont plus rien en réserve et que.
C'est ça.
Le mec est fort, mais il prend la place des mecs qui sont là. Hein.
Mais même quand ils le sortent, ils le protègent quand même. Pas mal. Moi, je trouve que, par exemple, des gens comme Yamin Lamal ou Koubarsi, ils sont en train de les griller.
À la limite, en défense centrale, tu cours pas énormément. Tu peux enchaîner les matchs.
Tu prends des chocs.
Tu joues tous les matchs.
Tu prends des chocs,
mais c'est pas trop. La Liga, c'est Koubarsi, il évoluerait en Ligue 1 à devoir se frotter des bestiaux comme Mofi, etc. Au bout d'un moment, ça pourrait peser. Pareil, en attaque, tu n'es pas sur le même rythme. Par contre, là où faut faire très attention, c'est au milieu de terrain. Parce que comme tu dis, le milieu de terrain, c'est les postes les plus énergivores. Et on l'a vu avec Pedri.
Gavi. Et moi, je crains beaucoup Yamin Lamal. Regardez Ansu Fati, il se traîne à Brighton. Et Ansu Fati, il a 21 ans.
Les mecs étaient très très forts et finalement qui n'ont rien donné, le foot en est rempli. Et c'est vrai qu'on des fois on les oublie. Hein. Qui parle encore des gars comme les Rubinho, où tu avais eu l'Américain, le petit jeune qui aujourd'hui, je crois, a pris sa retraite. Le gars a été annoncé. Même les Youssoupha Moukoko à Dortmund. C'est-à-dire que si tu as joué à Football Manager, tu voulais absolument l'avoir dans ton équipe parce que le mec, il finissait Ballon d'Or. Là, aujourd'hui, Moukoko, il est... Il, Enfin, il joue pas beaucoup avec Dortmund, hein, donc pas Freddy Adu. Voilà, c'est exactement ça. Merci au GCRM, qui est notre béquille.
Donc voilà, on est quand même plutôt. Moi, je suis pas défaitiste pour Paris, mais il va falloir vraiment qu'ils sortent les doigts pour le match retour demain.
Et surtout, c'est ce que je disais, avec le principe du but à l'extérieur qui n'est plus pris en compte, c'est-à-dire que tu gagnes 1-0, tu vas en prolongation. Donc c'est Paris a tellement pas été bon, a tellement été défaillant dans des secteurs clés au match aller. Le match, tu le gagnes quand même 3, enfin tu le perds, tu vois, lapsus révélateur. Tu peux le gagner et tu le perds 3-2 sur des erreurs énormes. Donc après, je pense qu'on va assister à un coup tactique qui sera complètement différent sur le match retour. Est-ce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé du Casper de l'aile gauche. Est-ce qu'il va mettre est-ce que, déjà, première question, est-ce que Mbappé est titulaire demain?
Oh, je pense qu'il va le mettre, de toute façon. Mais par contre, il se gênera pas pour le sortir si vraiment il fait à moitié le Casper aussi. Il le mettra, mais il n'aura pas de sentiment pour le sortir.
Parce que là, tel qu'on est parti, je pense qu'on va sûrement avoir un Mbappé qui va être remis dans l'axe, avec un Dembélé et un Barcola en attaque. Là, il y a sur les compos qui sortaient un petit peu tout à l'heure, ça parlait d'Ugarte qui rentre en 6 pour faire remonter Vitinha et donc mettre Warren. Parce que Warren n'était pas titulaire, parce qu'il était aussi... Il était sorti contre Rennes.
Ouais, mais je te dis, c'est pareil. Il faut
le préserver. Il avait une poche de glace sous la cuisse. Je pense qu'il est diminué.
Et puis après, tu retrouves ta défense, Hakimi, voilà. Marquinhos, Hernandez et Nuno Mendes.
Cette défense qui a été alignée pour la première fois contre Rennes et qui n'a quasiment rien laissé aux Rennais. Bon, c'est-à-dire que les Rennais, en ce moment, on en parlera rapidement tout à l'heure. C'est quand même pas terrible devant, donc c'était pas un exploit. Mais la défense, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi, va pouvoir être aligné pour la deuxième fois de la saison. Donc, et on fait un coucou à Bonasera Calcio, hein, qui nous fait un coucou dans le chat. Mais ouais, voilà. Donc c'est pour ça, c'est que j'ai. Disons que au début de la saison, avec cet effectif complètement remanié, moi l'objectif c'était le quart de finale de Ligue des Champions. Mais c'est vrai qu'avec ce tirage, avec ce Barcelone qui est pas oufissime, avec l'adversaire Dortmund ou l'Atlético en demi qui se profilerait derrière, bah, ça pourra te laisser des regrets et surtout sur un match comme ça. Et finalement, tu ne veux pas avoir de regrets, donc à l'arrivée, oui, on l'espère, mais finalement, est-ce qu'on va avoir comment va attaquer Paris? C'est est-ce que tu t'y vas en match Bundesliga et c'est du ping-pong et tu les attrapes? Soit tu fais quelque chose d'un peu plus défensif pour finalement faire ce que tu fais de mieux, c'est-à-dire prendre les espaces.
Transition.
Sauf. On fera des transitions si l'autre Gogolito sur l'aile gauche n'est pas 10 mètres hors jeu, parce que ça, c'est quelque chose, c'est juste scandaleux finalement. Dire que ne pas être intéressé par le match, être concentré sur son nombril et oublier collectivement l'équipe. Enfin, c'est même Paris, tu pouvais pas développer tes joueurs en contre-attaque. Il était tout
en mais après, de toute façon, là, ça va être vraiment, si on peut résumer ça, c'est-à-dire que là, Kylian, il joue, on va dire, toute son histoire à Paris sur ce match retour. Et si ça se passe mal, je pense que les gens verront plus l'échec de la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. Mmh. Que quelque part sont passés avec ces nombreux
corps.
Donc là de toute façon on sait qu'il se cache jamais sur les matchs, mais il va falloir qu'il montre un peu ses biceps et qu'il impose véritablement qu'il s'impose physiquement sur le terrain.
Et donc en tout cas Si vous voulez avoir mon sentiment et le sentiment de beaucoup de supporters parisiens, je vous conseille d'écouter la petite capsule de Christophe Dugarry, qui était en confrontation avec Éric Dzimeco. Et en 2-3 minutes, il donne son sentiment sur Kylian Mbappé et qu'il trouve scandaleux. On va dire, on va résumer comme ça. On va pas faire de périphrase, surtout que l'émission avance, on est déjà à 50 minutes. Et donc, si on veut parler un peu du meilleur match de la Ligue 1 qu'on a vu hier soir, faudra quand même prendre un petit peu de temps dessus. Donc, je te laisse justement finir avec ton prono pour demain, sachant qu'on avait
Alors,
tous
tu
mis
sais que
Paris vainqueur
je suis pas l'aise pour les
lundi
pronos,
dernier.
je suis pas l'aise pour les pronos, je suis pas l'aise pour les pronos, mais je vais dire que je suis pas forcément défaitiste au niveau de Paris. Ils ont quand même une chance de pouvoir passer. Après, c'est entre leurs mains. Ils ont toutes leurs chances et s'ils ont envie de jouer comme ils peuvent jouer, ça peut le faire.
Exactement. On est un peu sur le même principe. J'ai quand même l'impression que tu vas, si Paris ne passe pas, tu sortiras quand même de cette double confrontation
Bah,
avec un
déçu,
petit
oui.
goût amer dans la bouche. Donc au moins, voilà. Moi, à la limite, moi que tu perds contre meilleur que toi, parce que Barcelone a été la meilleure équipe sur le terrain au match aller, ils gagnent le match, donc c'est quelque chose de tout à fait logique. Si au match retour on assiste encore à la même chose avec un Barcelone qui maîtrise, parce que là, on va quand même retrouver un milieu de terrain avec Gundogan, De Jong et Pedri. Voilà. Je pense que quand tu as dit ça, tu as tout dit. Si Barcelone gagne parce qu'ils ont maîtrisé le match et que toi, tu as essayé de faire ce que tu as pu faire, voilà. À l'année prochaine, on essaiera de revenir plus fort avec un projet qui aura pris un an de maturité, voilà. Mais au moins essayer de tomber les armes à la main. Donc c'est possible, mais pour ça, il faudra s'en donner les moyens. Allez, on passe rapidement quand même à notre Ligue 1 et on va parler de ce match fou d'hier soir. Toi, je sais que chez toi, tu as un petit supporter lyonnais
Ouais.
qui a dû être
Qui
dans.
regarde un peu les premières
Ouais.
mi-temps, qui regarde un peu les premières mi-temps. Alors du coup, il était plutôt content quand il est parti se coucher. Mais en fait, moi, le gros problème, en fait, c'est que pour une fois qu'on avait un beau match entre de belles équipes, et en plus, moi, je suis pas forcément pro-lyonnais, mais on va dire que c'est pas la meilleure équipe qui a gagné, c'est l'équipe qui a eu le plus on va dire, c'est pas l'équipe la plus forte, mais c'est l'équipe qui a le plus un peu d'intelligence, qui a le plus, pas forcément de vice, mais d'expérience. Et on sait que je défends souvent les arbitres ici, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a aucune cohérence sur l'arbitrage. Tu peux pas siffler coup franc sur Matic sur la main, si tu siffles pas penalty de O'Brien. C'est-à-dire que soit les cas de figure, c'est soit tu siffles aucune main, parce que tu considères que les mains, il y a des positions naturelles. Alors après, c'est la décision de l'arbitre, hein, c'est humain. Il faut aussi qu'on accepte de se redire au bout d'un moment, c'est une décision humaine d'un arbitre humain, donc lui considère qu'admettons, voilà. Donc c'est soit tu siffles pas pour les deux, soit tu siffles pour les deux parce qu'on considère que la balle a touché le haut du corps, enfin le bras ou la main des joueurs, donc il y a penalty, il y a coup franc, ou alors la chose la plus naturelle, c'est-à-dire que tu dois siffler sur O'Brien parce que O'Brien a vraiment le bras décollé et il fait limite un arrêt de
Bien
gardien.
sûr.
Et par contre pour Matic, quand il saute et qu'il se tourne et qui en fait le coude il est collé au corps et c'est vraiment le bout du coude qui dépasse et là voilà et siffler la main de Matic et pas la main d'O'Brien, il y a aucune cohérence et c'est ça depuis le début de saison et c'est pas qu'avec Lyon, c'est pas qu'avec Brest, mais c'est avec toutes les équipes où tu comprends plus rien ce qui se passe enfin et du coup et eh ben au lieu de pouvoir te dire putain, on a vu un super match, ça a été un super match pour Lyon, et puis Brest, ils peuvent se dire on a perdu, mais ils ont produit un jeu, moi je trouve, hier, qui était extrêmement impressionnant. La première mi-temps, ils sortent à 0-1, c'était eux les plus forts sur la première mi-temps. Ils ont encore marché sur l'OL pendant 20 minutes où ils marquent 3 buts.
Le
troisième but. Et le troisième but est quand même assez extraordinaire quand tu vois la rapidité de la transition, le jeu et la passe FIFA. Moi, c'est souvent les buts que je mets quand mon fils veut jouer avec moi, qu'on fait à FIFA. C'est je m'ouvre et je fais semblant de tirer, je m'ouvre le but et je la remets en une touche de balle. Tu dis, tu fais ça à FIFA, c'est un peu exagéré. Là, c'est vraiment ce qu'il fait, quoi. C'est-à-dire qu'il se met en extension pour rabattre la balle sur De Castillo qui marque le 3-1. Et tu te dis à ce moment-là, ben, le match est fini. Et Lyon, en fait, alors, il y a deux supers équipes. On va, pour une fois, féliciter l'ambiance dans le stade. Parce qu'il y a une super ambiance. Enfin, je veux dire, quand la Lacazette marque le 3-2, tu as l'impression qu'il y a 4-3 pour Lyon, alors que tu te dis, ils sont toujours menés. Mais en fait, ils refoutent le feu, les supporters refoutent le feu dans le stade. Et tu sens qu'à ce moment-là, en fait, Brest commence à prendre peur. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus là pour
gagner. Lyon, justement, mené, renverse le match et finit par l'emporter. Hein.
Mais aussi grâce à le supporter, parce que tu sens vraiment que psychologiquement, Brest, qui jouait décontracté, qui jouait, on va dire, qui venait là pour, on va dire, profiter et peut-être gagner le match, en fait, à un moment donné, ça switch sur le but de la casette du 3-2, et tu sens qu'ils reculent et qu'ils veulent plus perdre, en fait, qu'ils ont peur du résultat. Et forcément, face à un Lyon en pleine confiance, et ben, t'as l'égalisation. Il y a des super rentrées avec Cherki, Nouama, tu vois, des joueurs qui font un peu impact player. Et puis, après, le bouquet final arbitral, c'était la sortie lopézienne de Bizot. Je veux dire, ça, Lyon, ils avaient l'habitude de voir des sorties comme ça, mais plutôt de leur gardien, leur cher Lopez.
Ça ne joue à pas grand-chose sur cette sortie, parce que si Chardonnay ne touche pas le ballon, Bizot récupère le ballon. Et quand le gardien a le ballon et qu'il finit le genou en avant dans un joueur, il n'y a jamais faute. Alors que ça, c'est pareil. C'est peut-être qu'un jour, on se penchera sur ce point-là, sur les sorties de gardien. Une fois que les mecs ont le ballon dans les mains, ça peut défoncer le joueur en face. Moi, ce qui est quand même impressionnant, c'est que là, bien sûr, il n'y a pas le ballon, donc il frappe, il atterrit genou en avant dans le plexus de la casette. Mais comment déjà, de base, l'arbitre ne siffle pas pénalty? Parce que bon, là, c'est pas possible, sachant qu'en plus, ça fait quelques semaines où on a des sorties de gardiens comme ça, et que, à part Donnarumma qui prend le pénalty, tous les autres, c'est vrai que tu savais pas trop. Là, tu as quand même un genou en avant, tu percutes de manière très violente le joueur. C'est pas possible de laisser passer. Tu as déjà dit en première mi-temps sur la main de Brian, justification de l'arbitre, c'est parce que le joueur brestois est près de Brian, donc finalement, il n'a pas le temps d'enlever la main, et que le pire, c'est qu'il n'augmente pas la surface de son corps.
Une main écartée.
Donc là, c'est sûr que après, je rebondis sur ce que disait OGCRM dans le chat, c'est-à-dire que Brest, ils se font voler depuis plusieurs matchs. Ouais. Brest, on le disait, ça dérange. Et donc ça, et justement, je veux revenir sur ce point-là, parce que justement, Roy, au micro d'Amazon à la fin, il nous a sorti ce truc-là, on gêne. Mais vous gênez qui ? C'est juste qu'à un moment, les petites équipes, parce que on l'a déjà dit, j'ai déjà utilisé ce terme-là pour Brest, parce que c'est un petit budget, c'est considéré comme une petite équipe. C'est quelqu'un qui joue plus le maintien que la Ligue des Champions, les coupes européennes. Donc, c'est pas du tout dédaigneux de ma part. Mais à un moment, ces équipes-là sont arbitrées d'une certaine façon. Moi, ce que j'appellerais l'arbitrage Coupe de France, c'est-à-dire que le petit on lui permet de mettre le pied un petit peu plus fort, que quand il y a une faute sur lui, c'est peut-être un petit peu moins sifflé. Voilà. C'est-à-dire que tu peux mettre un peu plus le pied parce qu'on considère qu'il y a un écart de niveau avec le soi-disant plus fort et que donc, c'est une arme en plus, l'agressivité dans le bon sens du terme, que d'aller titiller les chevilles et d'être un petit peu plus sur l'homme. Mais quand tu es dans le haut du classement, comme Brest finalement, eh ben, tu n'as plus cette aide arbitrale où tu pouvais passer. Et donc, oui, les trucs que tu faisais quand tu étais petit, bah, ça passe moins quand tu es en haut. Et donc, tous ces gens-là ont l'impression finalement d'être arbitrés différemment, ce qui est le cas. Et donc, tu te retrouves dans la situation des plus gros à qui on passe moins de choses. Alors après, il y a quand même des choses là-dessus qui sont, sur ce match, qui sont vraiment condamnables.
Non,
sur le double carton rouge, c'est vrai que tu as Lesmelou qui se redresse. Le mec considère qu'il n'a pas de mouvement d'humeur. Oui, après, une fois qu'il y a quand même des mecs qui sont là pour le séparer, parce qu'il va quand même mettre la main au niveau de la gorge de Tagliafico.
Mais
donc,
le problème.
Il se prend des jeunes
assez
rapidement,
Le problème.
Mais par contre, c'est Brest qui les a entendus râler, justement, sur la main sifflée de Matic. Là, bizarrement, on ne les a pas entendus qu'ils étaient volés.
Mais en fait, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre Brest, mais je peux aussi comprendre Lyon. C'est-à-dire que ayant fait des matchs un peu de rugby et de hand où tu as des arbitres qui tiennent pas le match comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils énervent les joueurs. Et à un moment donné, en fait,
oui, t'as
l'impression.
Moi, on l'a tous vécu, ça. Hein.
Tu leur crées. Oui. Mais du coup, t'as l'impression que ça tourne toujours contre toi, alors que, objectivement, quand tu regardes le match, en fait, c'est aussi bien d'un côté que de l'autre qu'il est mauvais. Enfin, il n'y a pas de. Mais toi, tu le vis comme une injustice, certaines choses, et t'as l'impression que ça tourne toujours du mauvais côté. Et c'est un arbitre qui, c'est ce que j'ai marqué dans le groupe WhatsApp. Mais je persiste là-dessus, c'est un arbitrage à réaction. C'est-à-dire qu'en fait, il se rendait compte qu'il faisait une connerie. Donc, c'est même pas de réaction, c'est de compensation. C'est-à-dire que la main de Matic, en fait, c'est la compensation d'O'Brien. Parce que je pense que consciemment ou inconsciemment, il s'est rendu compte qu'il a fait une connerie. Et qu'il y a eu certaines fautes aussi qui ont été sifflées où tu dis, là, tu t'aurais dû. Enfin, et du coup, il a toujours couru derrière la compensation qui venait de créer et que ça a été un arbitrage mais complètement catastrophique. À un moment donné, il va falloir aussi que les arbitres, que la commission arbitrale refasse des formations, redonne une ligne directrice parce que tu sens qu'en plus, tu vois par exemple la VAR qui devrait être là comme une sorte de sécurité au niveau des prises en charge, enfin des décisions arbitrales. En fait, les mecs, ils sont complètement tout seuls. T'as l'impression que la VAR, elle fout rien. Enfin, c'est hallucinant.
C'est pas qu'elle
fout
rien.
Et que je parle de la France.
À la VAR, on les a aussi comme arbitre de champ. Et quand les mecs, ils sont pas bons sur la pelouse, est-ce qu'ils vont être bons? Dire que, alors après, il n'y a pas le contexte.
Oui,
t'as pas le stade
autour d'accord.
de toi, t'as pas les joueurs qui viennent, s'égosiller sur toi à être limite menaçant.
Et c'est ça, ça
donc,
devrait
être. Toi, tu dois être tranquille dans le quart. Sauf que les mecs, ils sont aussi, je vais pas dire incompétents parce que quiconque a déjà, même un arbitrage de tournoi de Pâques ou du 1er mai ou de n'importe quel tournoi qui vont arriver ou qui sont déjà passés en France, sait que c'est hyper compliqué. C'est-à-dire que moi, j'avais tendance à laisser jouer, mais c'est sûr que si tu laisses jouer et que ça commence à mettre un peu plus de taquet, au bout d'un moment, ça s'énerve et tu tiens plus le match. Donc, c'est bon et pas bon.
Mais quand alors, attention.
Là, les mecs que tu as sur la barre, ils sont du même niveau que quand ils sont sur la pelouse. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'un mec qui n'est pas bon dans le quart corrige un mec qui n'est pas moins bon ou pas meilleur que sur la pelouse. Donc c'est pour ça.
Mais Arnaud.
Ils sont finalement deux ou trois à prendre les mauvaises erreurs. Ah, les mauvaises
décisions. Bon. Mais quand moi je le dis et je le répète, je suis de plus en plus colère sur le niveau français. Regardez ce qui s'est passé au niveau européen. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce match-là entre Arsenal et le Bayern. Est-ce que vous avez vu l'action, le penalty non sifflé? T'as pas vu? Gabriel qui prend la balle en pleine surface de réparation, alors que la balle a été remise en jeu par son gardien. Normalement, c'est pénalty. Enfin, je veux dire, tu et là, l'arbitre et la VAR ont décidé, oh, bah, c'est une faute d'un gamin de 8 ans, on va pas lui faire pénalty quand même.
Alors qu'on l'a déjà vu, mais, hein, des trucs comme ça. Ou alors des marchés en NBA où le mec, il prend la balle dans la main, il marche et il oublie de faire la passe.
Mais regarde, bon, notre ami Jérôme n'est pas là, mais j'ai regardé, j'ai zioté un peu le match entre Liverpool et aide-moi Arnaud, ils ont joué contre qui Liverpool
le match de championnat
ce Crystal Palace. Oui, Crystal Palace, t'as deux pénalties à un moment donné, t'as l'arrière droit de Crystal Palace qui donne un coup d'épaule, mais à la Beraldo, et encore Beraldo, c'était à Marseille, c'était gentil, mais à un moment donné, il n'y a plus de trajectoire de balle, il n'y a plus rien, c'est simplement faire tomber l'attaquant. Mmh. Ah ben non, mais je veux dire, il y a au bout d'un moment, au bout d'un moment, je prends plus de plaisir quand je vois des trucs comme ça, parce que je me dis
ça peut arriver aussi que comme les joueurs, les arbitres passent à travers, parce que on n'a pas parlé d'un autre match.
Mais là c'est
qui a fait
quoi.
Un truc de malade, c'est le Real City, et qui était au sifflet à Real City, le Texier. C'était un arbitre français, et je trouve que le Texier, alors. Si tu écoutes les pleureuses madrilènes des comptes français des supporters du Poitou, là, c'est sûr qu'ils pleurent. Parce qu'ils disent que, normal, ils n'ont pas eu l'avantage arbitral qu'ils ont habituellement en Liga. Ou même en Ligue des Champions, on est bien placé pour en parler, vu que Paris en a souffert sur pas mal de matchs. Mais très bon arbitrage, le Texier. Et pourtant, match de Ligue des Champions, sur un match complètement fou, ça va des deux côtés, où je pense que là, le Texier, il a bien dû dormir le mardi soir, hein. vu le match qui s'est déroulé. Donc voilà, cet arbitre-là, il n'est pas forcément peut-être ultra connu, mais c'est vrai que de temps en temps, bah, quand il fait des bons matchs sur le multiplex, progressivement, bah, tu peux peut-être obtenir pour une fois, ce qui est un vrai top match du championnat et pas un match de Marseille contre Clermont, où tu fais juste la course à l'audimat et pas la potentielle qualité du match. Mais ouais, bon, après c'est comme tu l'as dit au tout début, c'est vrai que c'est dommage que l'arbitrage est un petit peu gâché, parce que pour le reste, on a eu une intensité de jeu. Ça rentrait dedans, etc. Là où, et parfois, il y a des fois, ce qui me gêne un petit peu, et pour moi, si Brest, je préfère qu'ils terminent quatrième, dans le sens où ils vont faire les tours préliminaires, et si ça se passe pas trop bien, ils sont reversés en Europa League, ce qui serait un petit peu plus leur niveau, entre guillemets, parce que l'année prochaine, quand il va falloir faire, s'ils sont en phase de groupe, les 8 matchs de groupe et matchs de coupe, parce que la coupe va arriver, les phases de groupe ne seront pas terminées parce que phase de groupe se poursuivent en janvier. Je crois qu'il y a deux matchs en janvier de phase de groupe de Ligue des Champions. Donc, tu as la Coupe de France qui commence au même moment. Tu auras le championnat. Sachant que pour, à mon avis, Brest, l'année prochaine, je ne sais pas si Bizot sera toujours là. Brassier ne sera plus là, à mon avis. Lesmelou, ils l'ont déjà retenu par le col. Je pense qu'ils lui ont donné, ils lui ont donné un. Voilà, ils lui ont donné quand même un. Non, mais ils peuvent donner ce qu'ils veulent. Pierre Lesmelou, il a quel âge? Il n'est pas loin de la trentaine. Donc, si tu as un club qui arrive comme Marseille, ben déjà, Rennes, qui voulait le récupérer, lui propose, je vais pas dire un x10, mais il lui propose 300 000 balles par mois. C'est son dernier gros contrat. Ligue des Champions ou pas Ligue des Champions, Lesmelou, il y va. Brassier, ça peut s'interroger, mais ça dépend qui vient le voir. Del Castillo, il fait un bon match, mais Steve Mounier, moi je suis en Angleterre, je téléphone.
Bah, il est déjà parti en Angleterre et ça s'est même passé pour lui. Donc,
et à la limite, il a peut-être pris un petit peu plus la mesure du truc. Donc je pense qu'il va y avoir énormément de joueurs qui vont être contactés. Il va y avoir une manne. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette manne? Ils vont faire n'importe quoi sur le marché des transferts. Il y a tous les mecs qui vont venir taper à la porte, demander une augmentation de salaire. Ils vont devoir se fabriquer une équipe avec pas juste un 11 qui tient la route, parce que pour l'instant, il n'y a pas trop de blessures. Ils peuvent toujours aligner le même 11. Mais quand il va falloir jouer tous les 3 jours, ils doivent se constituer une équipe. Et donc, c'est typiquement le genre de match. On voit que Lens est quand même pas les derniers des nuls. Ils ont quand même réussi. La fin de saison est compliquée. Là, on a encore vu et ils ont encore chuté ce week-end. Donc, c'est quelque chose qui, la Ligue des Champions, c'est extrêmement énergivore. Donc, c'est pour ça. C'est vrai que sur 34 journées, à un moment, si Brest finit deuxième, je me lèverai et j'applaudirai en disant, messieurs, vous avez fait une saison monstrueuse, parce que tu es pas là par hasard. Sur 34 matchs, c'est pas de la chance. C'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout que derrière, tu as quand même Monaco et Lille. Ils vont finir assez fort, je pense. Donc, Lille aura la Coupe d'Europe. Peut-être qu'ils vont perdre des plumes, mais Monaco devrait potentiellement leur passer devant. Surtout que on a un Monaco-Brest ou un Brest-Monaco prochaine journée. Donc, il me semble. Hein. Je veux pas dire de.
Je sais que Paris, il y a Paris-Lyon, ouais. Brest-Monaco, ouais.
Donc le Brest-Monaco qui se jouera donc dimanche à 17h. Voilà, c'est-à-dire que si Brest gagne contre Monaco en leur mettant une belle pilule de 0, les mecs ils ont quasiment entériné leur deuxième place, parce que finalement la fin de saison sera un peu plus facile. Surtout que je crois que derrière ils jouent contre Rennes, et le Rennes actuel a le niveau d'un relégable. Donc en tout cas, ça sera bravo à eux. Ils ont mérité de se faire des soirées magnifiques. Francis Leblay qui reçoit l'Inter de Milan ou le Real Madrid. Là, vous aurez mérité, les supporters brestois l'auront mérité. Mais par contre, faut arrêter à cette petite musique du on gêne. Quoi qu'il arrive, Brest finit top 4. On regarde le classement, parce qu'on n'a pas fait le point. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même 6 équipes qui n'ont pas joué. Donc Paris, bien sûr, garde ses 10 points d'avance avec cette défaite. Si jamais Paris gagne contre Clermont, contre Lorient, bon, sachant qu'on va faire tourner, on va encore avoir peut-être un texto du président du Havre, comme quoi on faut ce championnat. Mais d'ailleurs, ça me un petit coucou à lui, parce que apparemment ce monsieur compte sur les autres pour se sauver, parce que son équipe n'arrive pas à gagner dans les matchs qui comptent. Parenthèse refermée. Donc voilà, je pense que on va dire que c'est fini. Tu as quand même le Brest-Monaco, s'il y a un partout et que Paris fait quelque chose contre Lyon, tu peux te retrouver avec 12 points d'avance et un match encore à jouer, donc potentiellement 15 points d'avance. D'ailleurs, ce qui fait que Paris pourrait être champion, quasiment. Peut-être à la différence de but. Faudrait que Brest perde et que Paris gagne les deux matchs. Donc, tu te retrouverais à 16 points avec 15 points, avec 15 points à donner. Donc, Paris serait champion à Clermont, à Lorient, je vais y arriver. Donc voilà, Monaco qui suit Brest avec un match en retard, donc qui peut prendre la P2 avec 52 points. Lille, justement, qui jouera contre Monaco ce fameux match. Donc si Lille gagne contre Monaco, on a quand même 3 équipes pour la P2-P3 qui se tiennent en un point. Nice a quand même l'air d'être décroché à 44 points, sachant qu'ils joueront contre Marseille, le match en retard. Les Marseillais qui, quoi qu'il arrive, s'ils ne veulent pas être décrochés pour la course au moins à la 6e, 7e place, il faut qu'ils gagnent à Nice. Donc, tout ça est tendu. Lens, ça dégringole progressivement, surtout que maintenant, tu as Lyon qui est juste à 2 points derrière, donc qui finit bien, qui va bien. Il y a un calendrier qui est assez honnête pour finir la saison. Donc, s'ils ne se terminent pas 6e, 7e, ils auront au moins, quoi qu'il arrive, peut-être la place en Europe via le championnat, qu'importe le résultat en Coupe de France, j'ai envie de dire. Ils pourront peut-être avoir quand même l'Europe. Ce qui est quand même une des choses annoncées au micro de Prime hier par Lopez, justement, en fin de match, où c'était quand même l'un des objectifs de la saison, c'est-à-dire ramener l'Olympique lyonnais en Coupe d'Europe, quelle que soit la Coupe d'Europe, même si c'est même si c'est la plus petite. Reims, ça avance plus non plus, qui perd quand même 3-1 contre Strasbourg, qui avait le match en main en menant 1-0 et carton rouge, et là le match se retourne complètement et Strasbourg qui réussit à l'emporter. On va dire que les Strasbourgeois, avec cette victoire, ont assuré leur maintien à 36 points. Ils sont au même nombre de points que Toulouse, qui a battu Rennes. Les Rennais, justement, qui sont plus qu'à 3 points de Toulouse. Alors, quand on sait que Toulouse fait quand même vraiment une saison en dents de scie, Rennes, c'est même plus les dents de scie. Hein, c'est enchaîner le Tourmalet avec une plaine et se faire un autre col hors catégorie derrière. Hein. C'est vraiment très, très compliqué. Nantes qui se donne de l'air avec cette victoire ultra
importante. Mais Nantes, ils vont réussir à sauver, hein, encore malheureusement.
Nantes qui prennent 5 points d'avance, ce qui paraît monstrueux finalement sur les relégables, sachant que les relégables ne sont pas morts. Parce que Clermont fait un match nul, Metz qui gagne. Donc Lorient a le match à jouer contre Paris, mais si Paris est toujours qualifié en Coupe d'Europe, c'est vrai que OGCRM le disait justement dans le chat, c'était une de ses premières interventions sur le calendrier, c'est que tu as quand même Lyon dimanche soir, donc tu joues le mercredi contre Clermont, le 27 tu refais un match de championnat, il me semble que c'est Le Havre. Et donc, techniquement, derrière, tu t'aurais, si tu es qualifié, le 30 avril, ta demi-finale. Donc, le fameux match contre Le Havre, il demanderait à être que la Ligue voudrait déplacer. Donc voilà, c'est le genre de truc. Paris a quand même un petit calendrier muy simpático. Donc, peut-être que demain soir, il n'y aura plus de problème de calendrier. Peut-être juste pour les Lillois et les Marseillais, s'ils continuent, et je leur souhaite... Leur chemin en Europe. Donc voilà. C'est resserré. Quand tu regardes les prévisions de fin de saison sur Opta Analyst avec les simulations de fin de saison, les distributions de probabilité sur les places sont de moins en moins larges. Ça se resserre quand même pas mal. Disons que ouais, le Havre garde une petite avance, mais ils sont pas à l'abri non plus. Nantes a gagné un petit peu plus d'air.
Montpellier aussi. Je suis quand même déçu de cette fin de saison. Moi, je pensais qu'ils allaient quand même pouvoir. Je les voyais quand même se maintenir plus facilement. Et c'est. Je trouve qu'il y a vraiment un creux. Un gouffre même qui s'est créé au niveau du Havre, tu n'en entends plus parler, il y a plus rien qui a l'air de véritablement se passer, tu vois, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de... Donc voilà, j'espère que ça... Moi, j'aimerais bien que le Havre puisse se maintenir, mais...
Ouais, moi aussi, parce que c'est un club que j'apprécie.
Oui, aussi, oui. Donc,
notamment avec Bodmer, dont j'ai clamé l'amour pour l'homme. Avant pour le joueur, mais aussi pour l'homme et pour le travail qu'il fait là-bas, avec sa vision du foot aussi. Surtout que quand il dit dans les interviews qu'il n'y a qu'un seul club qui pourrait le faire réfléchir à le faire quitter le Havre, et je vous laisse deviner lequel. Voilà. Donc, moi aussi, c'est un club que j'apprécie, même si j'avoue que la sortie du président m'a un petit peu énervé. Donc voilà. As-tu quelque chose à ajouter sur
ce
championnat? Si tu as une petite merguez.
J'ai une petite merguez. Alors en plus, comme on est que deux, on a, c'est pas qu'on a plus le temps. Là, on est 1h15. Je vais la faire rapide. Mais j'ai une petite question à te poser. Alors, on en avait parlé un peu, je ne sais plus si on en avait parlé ici sur le barbecue foot, mais connais-tu Shohei Ohtani? Il a fait la couverture de l'équipe magazine et c'est en fait un joueur de
Ah,
baseball.
oui, j'ai vu la, oui.
Voilà, la couverture de,
On est
voilà,
là.
c'est un Japonais qui joue, alors, merguez omnisports, hein, pas forcément que le foot, mais ça peut rejoindre aussi le foot. Et en fait, il faut savoir que c'est le GOAT du baseball américain, et c'est pas des petits contrats qu'il signe, il a signé donc un contrat aux environs de 700 millions de dollars sur 10 ans aux Dodgers. Donc, c'est le plus gros contrat qui a été donné au niveau de la MLB.
700 millions.
Oui, sur 10 ans, il me semble.
Ah, parce
Il
que
me semble.
même en NBA, bah, tu vas me dire que
Ah, mais
pour
c'est en
le.
fait le NBA, la NBA, c'est pas les plus gros contrats qui sortent en fait. C'est vraiment le baseball, le sport roi aux États-Unis. Et en plus, il est japonais, donc c'est encore quelque chose d'encore plus exceptionnel. Et en fait, ce petit Shohei, il est accompagné d'un traducteur, homme de l'ombre, personne qui s'occupe un peu de toute sa vie, qui gère sa vie. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il a un petit souci, c'est qu'il parie. À ton avis, mon cher Arnaud, tu me dis une somme comme ça, à ronde pelle, hein. À ton avis, combien est-ce qu'il a perdu d'argent entre 2021 et 2024?
Mais perdu d'argent parce qu'il joue au jeu,
Oui,
c'est un joueur?
c'est un joueur.
Oh, bah généralement, plus tu as d'argent à perdre, plus t'en perds. Mais oh, je sais
Allez.
pas, 700 000 euros, allez, 1 million.
Alors, 1 million, on va parler en dollars. Eh ben, écoute, je crois que tu t'es un peu trompé, parce que cette personne a perdu, alors écoutez bien, les petits amis, 180 millions de dollars.
Pas mal.
Il a une balance, en fait, en négatif de 40 millions de dollars. Donc, en fait, il avait réussi à gagner 140, mais il a perdu 180. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est l'homme de main de Shohei Ohtani, star, superstar de la MLB, on sait très bien que les Américains, il faut pas rigoler avec les jeux d'argent de Paris pour les sportifs. Ils sont en train de dépiauter toutes les affaires, en fait, parce que vu que c'est l'homme de main, en fait, il aurait volé 16 millions. Le traducteur aurait volé 16 millions aux joueurs. Et en fait, ce que veut regarder le FBI, c'est de savoir si c'est pas le joueur qui aurait donné des ordres de pari. Donc là, alors, apparemment, le joueur,
Ah,
c'est
ok.
encore clean. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est du vol ou est-ce que c'est des
C'est
paris qui
un
sont,
prête-nom, quoi.
voilà, ou est-ce que c'est un prête-nom? Alors là, pour l'instant, ils ont rien réussi à démontrer. Donc, le joueur serait quand même plutôt protégé. Et imaginez que le mec qui signe un contrat de 700 millions de dollars pourrait tout perdre pour ça. Mais mon message, en fait, c'est, vous voyez que même les gens qui jouent des sommes astronomiques perdent. Les paris sont faits, les sites de paris, les applications de paris sont faits pour que vous perdiez votre pognon.
Ah
Ne jouez pas.
ben, là-dessus, c'est justement là quand je regardais aujourd'hui justement toutes les un peu previews d'influenceurs foot sur YouTube, ils sont quasiment tous sponsorisés par des sites de
Mais
paris où tu peux
les
avoir des liens,
championnats, mais
etc.
tous les championnats sont
Ouais,
sponsorisés par des sites de paris.
et là en fait sur justement les cotes parce que ça ils s'appuient aussi sur ça pour
Oui.
donner aussi sur les previews sur les matchs. Sur la qualification de Paris, les bookmakers, donc même les sites de Paris en France, la cote de Paris est à 3,85 sur la qualification et 1,25 pour Barcelone. À l'heure où ils faisaient les vidéos, tu avais 90% des gens qui avaient mis leurs sous sur Paris. Donc après, en fait, tu as toujours le truc du. Et c'est aussi pour ça que c'est toujours mieux de parier sur des choses, enfin,
Non.
toujours mieux si tu paries, mais sur les choses où tu n'es pas
Ne pariez pas.
émotionnellement intéressé, parce que tu as toujours du mal à parier contre.
Il y a, mais si vous étudiez, enfin, si vous lisez certains neuropsychologues, entre les biais de connaissance, les biais cognitifs qu'on peut avoir, de toute façon, les applications prendront vos sous. Donc, message, si vous restez un petit peu d'argent et que vous dites, oh, bah, tiens, je me ferais bien parier. Si vous êtes accompagné, faites un cadeau à la personne qui vous accompagne au niveau de votre vie. Ça fera toujours plaisir. Et si vous êtes tout seul et qu'il vous reste un peu d'argent et que vous savez pas quoi en faire, donnez à des associations. De toute façon, l'argent que vous allez parier, vous allez le perdre. Donc, autant le donner à des gens pour qui ça va vraiment servir et qui en auront vraiment besoin. Lisez ce qui se passe au niveau de justement des paris d'ego au niveau de la MLB et justement du traducteur de Shoyotani. On se dit ça peut arriver qu'aux autres. Il arrivait pendant plus de donc de 2 ans. Il a parié 25 fois par jour, c'est-à-dire une fois par heure. Les mises moyennes étaient de $10,000.
Oui.
Tous les jours. C'est pas énorme.
Bah après, c'est toujours pareil. J'ai pas le salaire mensuel du monsieur, mais il y a des gens, et eux, ils parient $10,000, comme toi, tu parierais $10. Moi, si je devais jouer à des jeux, je mettrais à chaque fois les mises minimum. Mais le gros problème, c'est que tu touches un truc au niveau du psychologique, c'est qu'il y a maintenant beaucoup de gens, je pense, qui ne suivent le foot ou le sport de manière globale.
Pour
s'intéresser, parce qu'ils mettent un enjeu.
Exactement.
Et c'est vrai que Olivier TRM le disait très bien, tu peux très bien faire de la pub, parce que c'est vrai que c'est sur les jeux gratuits, que sont mon petit gazon et mon petit prono, où les gens sont en stress, etc., ont de l'intérêt pour un truc finalement, où tu gagnes rien, enfin, t'as juste le fait d'être un peu devant les autres. Et même entre nous, à un moment, on faisait aussi on avait le petit site de Paris où tu pronostiquais, et en fait, rien que le fait d'avoir des meilleurs résultats que les copains ou des trucs comme ça, t'avais envie que ça t'intéressait un petit peu plus sur les matchs. Donc, mais c'est vrai que tu prends les publicités pour les sites de Paris, ils axent là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, limite, tu regardes les matchs. Et en stress, pas parce que tu attends le résultat du match, mais parce que tu as parié dessus. Et c'est là que c'est le côté un peu retors.
Donc voilà.
Et en tout cas, c'est pas mal. Au GCRM, on peut donner ses chipots et merguez, parce que c'est un peu le troisième larron.
Leverkusen, ça c'est la chipot de tout le monde.
On en a parlé au début.
Leverkusen champion, exactement. La vidéo des supporters de Metz. Qui tabasse un supporter lensois. Non, mais c'est pas possible. Non, mais... Alors, en plus, avec le match de Lyon, où on a vu une super ambiance, où on a vu des gens fusionner le stade et supporter son équipe, et quand tu vois d'autres...
D'ailleurs, c'est
insultant pour les gogoles, quoi, parce que les gogoles, ils sont plus intelligents que ça, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas possible.
C'est vrai que j'en ai pas parlé. Ce qui peut être aussi, finalement, ma merguez bis par rapport à cette JCRM, c'est le comportement des fans barcelonais dans les tribunes du Parc des Princes, avec des beaux saluts nazis et des imitations de singes. Envers, je pense que
le FC Barcelone,
des blagues, etc.
Qui était quand même un club qui était censé être contre l'État franquiste, qui se définissait comme être un club de gauche, voire même un club à connotation communiste. Quand on voit ça, on se dit mais putain. Et ouais, sinon, ça va m'énerver.
Mais bon, tu vois, tu sais bien, Carlos, comme le disait l'ancien grand président de la FFF, il n'y a pas de racisme dans le football.
Le sport n'est pas politique, il faut le savoir.
C'est ça, exactement. Que nous disait il y avait des gens dire... c'est Ojisarim qui disait sur les paris, le match Udinese AS Rome hier soir, arrêté sur un drame, et sur X, il a vu des gens dire Mais on fait comment pour nos paris? Ils vont compter des fêtes de la S-Rom?
Alors qu'il y avait quelqu'un qui était quand même allongé sur le terrain et qui était un peu entre la vie et la mort, le malaise, on ne savait pas trop comment ça, ce qui pouvait se passer. C'est voilà, c'est.
Ah bon? Après, c'est la société actuelle. C'est, tu râles parce que ton métro il est arrêté. Parce que t'as quelqu'un qui s'est suicidé, t'as juste, tu penses juste à ce que ton métro avance et tu penses pas du tout à la personne qui s'est suicidée ou qui a été poussée sur les voies. Enfin bref, c'est vrai que c'est. Que veux-tu? Mais c'est vrai que bon après c'est les réseaux sociaux, hein, c'est toujours pareil. Ouais. C'est la majorité, les gens qui s'expriment ne reflètent généralement pas du tout la majorité silencieuse. Et ça dans nombre de sujets.
Bon, 1h30, je crois qu'on va peut-être arrêter.
Ouais, surtout que moi je suis en vacances, mais toi tu travailles, mon Carlos.
Il me semble que je travaille demain, donc on ne va pas se coucher trop tard. Pour ceux qui vont nous écouter, on va avoir une émission vendredi, non pas sur le ballon rond avec des pieds, mais un ballon rond avec des mains.
donc une grosse baballe orange.
Une grosse baballe orange. Et bah, sinon, on se dit peut-être à la semaine prochaine.
Ouais, alors après, j'avoue que si demain soir, alors, il y a une qualification parisienne, il se pourrait, même s'il n'y a personne du côté du barbecue foot qui est chaud patate, que je t'envoie un petit live comme ça, tout seul pour expliquer.
Ah, bah, tout seul,
joie.
Oui, je t'écouterai mercredi matin.
Mais je pense pas.
Dans ma voiture.
Dans ce cas-là, c'est toujours compliqué tout seul, puisque c'est. Même si je fais des longs tunnels. D'ailleurs, dites-le, hein, si mes tunnels sont trop longs, ils voulaient juste que ça soit un tout petit pont. Dites-le dans les commentaires des vidéos. Voili, voilou. En tout cas, on souhaite bonne chance à la fois à Paris, mais également à l'OM et à Lille. Tout le monde se retrouve en demi pour faire progresser l'indice UEFA parce qu'il ne faut jamais oublier que les deux meilleures équipes aujourd'hui qui sont premières à l'indice UEFA de la saison ont une place qualificative offrent une place qualificative à leur fédération là actuellement je crois que c'était l'Allemagne et l'Angleterre, j'ai un doute, enfin bref. Ne jamais oublier ça, c'est-à-dire que si vous performez en Europe et que vous n'êtes pas sûr d'être qualifié dans les trois actuels, vous pouvez offrir une petite place supplémentaire au club en Ligue des Champions. Donc, voilà. C'est l'Italie et l'Allemagne. Voilà. Donc voilà, ce qui pourrait permettre justement en Allemagne à ce que Leipzig et Dortmund, qui sont actuellement se tirent la bourre pour la quatrième et cinquième place, d'être quand même qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, c'est quand même une belle carotte qui est offerte pour pouvoir motiver. Sachant que la France, ce n'est pas excessivement loin. Donc, si les clubs français passent, on pourrait assez bien remonter. Bon. On se dit bonne soirée, mon Carlos. À vendredi avec à d'autres pseudos.
Exactement. Et puis, sinon, on se dit à lundi prochain pour une nouvelle journée de foot.
À lundi prochain pour débriefer la J30, les coupes européennes et on espère plein de victoires.
Allez, bonne soirée.
Bonne soirée.